est 11h30 en temps universel, midi et demi à Londres et nous parlons de l'actualité en Europe durant la prochaine demi-heure.
RFI Midi, Anne Cantner.
L'actualité en Europe jusqu'à midi, temps universel, l'heure de votre journal. Simon Bourtembourg, bonjour.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Avec à la une tout à l'heure.
À la dernière ligne droite, en vue du deuxième tour des législatives en France, les candidats se sont tous déclarés pour le scrutin qui aura lieu dimanche. Dans le camp présidentiel, comme celui du Nouveau Front Populaire, les désistements ont été nombreux pour faire barrage au Rassemblement National. Nous entendrons également le désespoir des habitants de la bande de Gaza, des milliers de Palestiniens qui fuient dans le sud après un ordre d'évacuation émis en début de semaine par Israël. Ils craignent une nouvelle attaque d'envergure. Et puis, plus les jours passent, plus les doutes du camp démocrate augmentent sur l'état de santé de Joe Biden. Apparu très en difficulté dans son débat face à Donald Trump, le président américain justifie sa fatigue par ses derniers déplacements internationaux. Enfin, de journal, nous parlerons de la Grèce. Gagner plus à condition de travailler plus. Athènes instaure la semaine de travail à 6 jours. Le dispositif fait l'objet de nombreuses critiques, nous l'entendrons.
Simon Bourtembourg, à tout à l'heure.
RFI Midi.
D'ici à votre journal, on va beaucoup parler des élections législatives anticipées prévues demain au Royaume-Uni et de cette défaite annoncée. Très dure défaite pour les conservateurs au pouvoir. Nous appellerons notre correspondante à Londres et puis on parlera aussi des travaillistes qui devraient retrouver le pouvoir au Royaume-Uni. Nous irons en Italie voir comment les Italiens qui vivent sous un pouvoir d'extrême droite depuis un an et demi maintenant regardent les élections législatives en France. Et puis bilan des huitièmes de finale de l'Euro de foot en Allemagne.
RFI, l'Europe à midi.
Un soutien marquant pour Rishi Sunak, le Premier ministre britannique, promis à une défaite cinglante demain lors des législatives anticipées, peut quand même compter sur l'un de ses prédécesseurs. Boris Johnson a pris la parole aujourd'hui pour la première fois dans la campagne pour mettre en garde contre le retour au pouvoir des travaillistes. Alors à la veille du scrutin, il était temps de le dire, mais de toute façon c'est trop tard, les sondages sont formels et les électeurs aussi. Ils veulent tourner la page des années Tories, les conservateurs.
Les Tories n'ont rien fait pour aider les gens sur les vrais sujets, particulièrement sur le coût de la vie. Donc c'est le moment pour que ça change.
Les 14 dernières années, tout a tourné autour des personnes, du populisme, et sans service public digne de ce nom. Les gens disent que Keir Starmer est ennuyeux. Mais moi, ça me va très bien, tant qu'il fait de bonnes choses pour le pays et qu'il gouverne efficacement. C'est tout ce que je demande.
Un Keir Starmer, leader du Parti travailliste et vraisemblablement futur Premier ministre, après une campagne pourtant sans éclat. Une campagne plutôt contre les conservateurs, contre Rishi Sunak, qui devrait perdre son siège de député demain. D'ailleurs, les thèmes de campagne ont été quasiment les mêmes que les années précédentes. Bonjour Emeline Vin.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Vous l'avez suivi pour nous, cette campagne, vous êtes notre correspondante au Royaume-Uni. Et une fois encore, l'immigration a été l'un des points centraux des débats.
Oui, depuis avant le vote sur le Brexit en 2016. Mais c'est surtout que le Premier ministre Rishi Sunak a fait la promesse de faire baisser les arrivées illégales au Royaume-Uni. Promesse non tenue. Sur les 6 premiers mois de l'année, près de 13 000 personnes ont traversé la Manche à bord d'embarcations de fortune. C'est un record, record qui signe l'échec de la politique des conservateurs. Pour rappel, le gouvernement souhaitait mettre en place un partenariat avec le Rwanda pour y délocaliser son système de demande d'asile. Côté immigration légale, les derniers chiffres dont on dispose datent de 2022, mais il s'agissait là aussi d'un record.
Est-ce qu'il s'agit d'un sujet évoqué par tous les partis lors de ces élections ou bien c'est un domaine réservé à la droite ?
L'enjeu de réduire l'immigration, c'est en tout cas une promesse que partagent les conservateurs et Reform UK, une petite formation pro-Brexit très à droite, pas encore représentée au Parlement. Eux mettent en avant le coût de l'accueil des demandeurs d'asile et les capacités limitées des services publics. Concernant le coût, aucune donnée officielle n'est disponible. Au centre et à gauche, les candidats rappellent que les services publics, justement, dépendent de la main-d'œuvre étrangère. À l'hôpital public, par exemple, un employé sur 5 n'a pas la nationalité britannique. Il existe un consensus pour mettre un terme à la politique Rwanda qu'on évoquait, mais le programme du Parti travailliste, annoncé vainqueur de ces élections, se montre très prudent sur les questions migratoires, promettant de réduire l'immigration et les traversées de la Manche, sans toutefois préciser de quelle manière.
Emeline Vin, correspondante à Londres, le Parti travailliste, donc pas toujours très à l'aise avec cette question de l'immigration. Parce que, de fait, le Parti travailliste s'est déplacé à plusieurs reprises sur l'échiquier politique. Après des années très marquées à gauche, le leader, et donc futur Premier ministre, probablement Keir Starmer, ramène le parti vers le centre. Mais cela ne se fait pas sans quelques errements et sans hésitation, voire carrément des accros. Écoutez Thibaut Arroy, maître de conférences en civilisation britannique à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 4. Il est revenu avec Léonard Vincent sur les différentes tendances qui ont traversé le parti ces dernières années.
C'est un parti qui avait été conduit vers le centre, presque au centre droit, sous l'impulsion de Tony Blair à la fin des années 90, début des années 2000, qui ensuite a connu une période d'hésitation et notamment dans l'opposition au moment du Brexit, s'est tourné plutôt vers l'extrême gauche sous l'impulsion de Jeremy Corbyn. Et Keir Starmer, lui, a essayé de le recentrer sans toutefois aller aussi loin que Tony Blair peut-être. Et on sent qu'il y a une tension aujourd'hui entre une aile plutôt modérée de centre-gauche, une tension avec les anciens partisans de Tony Blair qui aimeraient au contraire revenir vraiment au centre et assumer un côté libéral. Et il reste malgré tout des soutiens de Jeremy Corbyn, même si lui-même a été exclu aujourd'hui du parti, c'est dire. Mais il reste aussi cette frange très à gauche dans le parti. Et donc peut-être c'est un parti qui se cherche et qui n'arrive pas à véritablement assumer une seule ligne à cause de cette complexité lié au passé et lié aussi aux événements particuliers du Brexit.
Est-ce que c'est ce qui explique la relative timidité de Keir Starmer pour ce qui est de son programme politique pour les, disons, 100 jours qui viennent ?
Oui, tout à fait. Keir Starmer, aujourd'hui, n'arrive pas à véritablement assumer de décisions qui tranchent véritablement avec la politique des conservateurs. Et d'ailleurs, ça lui est reproché dans la campagne. Il ne dit pas grand-chose. Il n'arrive pas à montrer ce que sera véritablement le programme des travaillistes, tout simplement parce qu'on a l'impression que ça sera peu ou prou le même programme que les conservateurs avec une conscience sociale. Et ça ne suffit pas à convaincre les électeurs qui sont marqués à gauche, mais peut-être que c'est une manière d'attirer les plus modérés des conservateurs qui sont déçus par, pour le coup, la tournure très libérale qu'a pu connaître le parti ces dernières années et aussi les évolutions sociales et le discours sociétal du parti conservateur.
Qu'est-ce qui est devenu l'électorat de Jeremy Corbyn, cet électorat de gauche qui avait incarné, disons, l'origine du Parti travailliste, puisqu'il est issu du syndicalisme? Quel est le choix qui s'offre aujourd'hui à un électeur de gauche plus radical ?
Le système britannique fait qu'il n'y a que deux grands partis. Donc à moins que ces électeurs choisissent de ne pas voter, ils n'ont en réalité pas d'autres options valables s'ils souhaitent avoir des élus au Parlement que de voter pour le Parti travailliste, qui d'ailleurs a choisi d'investir des candidats qui sont très différents dans les différentes circonscriptions. Et il y a des partisans de Corbyn qui restent dans le parti et qui certainement ont été investis. Et vu la vague travailliste à laquelle on s'attend après les élections de jeudi, il y aura peut-être des élus qui ne sont pas forcément sur la ligne tout à fait de Starmer, mais qui seront quand même membres du Parlement. Et donc on peut s'attendre avec cette grande majorité, cette majorité très large que les sondages promettent aux travaillistes, est-ce qu'il y ait peut-être quelques tensions même à l'intérieur du Parti travailliste, à l'intérieur de cette grande majorité travailliste entre les différents courant du parti.
Thibaut Arroy, maître de conférences en civilisation britannique à l'université Sorbonne Nouvelle, Paris 4. Il répondait à Léonard Vincent. Il nous parlait de tensions donc peut-être au sein du parti travailliste, tensions aussi au sein des électeurs travaillistes et une inconnue pour les législatives anticipées de demain, une nouveauté, l'occasion pour les Européens naturalisés de voter pour la première fois. Et notre correspondante Marie Billon a rencontré plusieurs d'entre eux, de ces résidents qui souhaitent peser sur la politique de leur pays d'adoption.
Arnaud n'a pas réfléchi à deux fois quand la droite conservatrice a annoncé la tenue d'un référendum sur le maintien ou la sortie du Royaume-Uni dans l'Union européenne en 2015. Il a demandé son passeport britannique.
Je voulais absolument, par principe, avoir le droit de vote. Par méfiance et aussi pour avoir un mot à dire lors des faits marquants de la vie politique. C'est vrai que c'est un petit peu vexant de ne pas pouvoir voter pour les élections législatives. Et j'avais trouvé qu'à l'époque, ça faisait déjà une quinzaine d'années que j'habitais à Londres, c'était le moment de sauter le pas.
La première fois qu'Arnaud a voté en Angleterre, donc, c'était lors du référendum de 2016, et il a voté contre le Brexit. Mais ses nouveaux concitoyens ont choisi à majorité de quitter l'Union européenne, ce qu'il regrette. Arnaud est adhérent au parti libéral-démocrate, une formation centriste très pro-européenne, mais qui n'est plus une force politique qui compte dans l'arithmétique britannique.
Avec ce système britannique du scrutin à un seul tour à la proportionnelle, on est en fait dans une mécanique qui broie les troisièmes, on va dire. Donc, si je prends le cas là où j'habite, dans le sud de Londres, le Labour très en tête, les Lib Dems deuxième, mais assez loin, et les conservateurs encore plus loin. Même si je suis membre des Lib Dems, je vais voter Labour cette fois-ci, puisque le candidat est un candidat, on va dire, plutôt centriste. Voilà, j'ai pas envie de prendre le risque qu'à l'échelon national, il y ait une mauvaise surprise pour les travaillistes. Je pense qu'il faut vraiment une grande vague des travaillistes le 4 juillet.
Oui, bonjour, je m'appelle Florence Siromele. Je vis à Londres depuis 23 ans maintenant et j'ai pris la nationalité britannique en 2019, bien sûr à cause du Brexit. Et je me suis dit à l'époque que c'était important de stabiliser ma situation au Royaume-Uni puisque je vais y rester. La motivation principale, c'était que je voulais pouvoir faire entendre ma voix. Parce que quand on travaille dans un pays et qu'on paye des impôts dans un pays, on veut pouvoir avoir son mot à dire sur la façon dont le pays est géré.
Florence, elle aussi, est membre du Parti libéral-démocrate. Elle a même été candidate à des élections locales. Cette Française a déjà voté par la poste.
Alors, c'est un vote de cœur. Donc, ma circonscription est à grande majorité travailliste. Donc, je pense que, bien entendu, le candidat travailliste va être réélu. Mais je pense qu'il est très important de faire entendre d'autres voix.
Véronique aussi a déjà voté. Elle a été très active dans la campagne In Limbo pour les droits des Européens vivant au Royaume-Uni, inquiets et malmenés par le Brexit. Elle vit en Angleterre depuis 40 ans. C'est la sortie de l'Union Européenne qui l'a poussée à prendre la nationalité britannique. Elle se sentait chez elle avant le référendum. Elle s'est sentie rejetée après. Mais devenir britannique est un processus coûteux, près de 2 000 €. Donc tout le monde ne peut pas se le permettre.
J'ai une chance folle parce que là, je vais voter tactiquement contre les conservateurs, mais aussi avec mon cœur pour Vera Obhouse, qui est libéral-démocrate. Et je vais voter pour tous mes amis, tous les étrangers qui en bavent tellement avec les conservateurs, mais aussi tous les Britanniques qui sont pauvres, qui sont vieux, qui sont malades, qui sont handicapés, parce que c'est catastrophique ce qui se passe ici.
Mathilde vit à Londres depuis 18 ans. Elle vient tout juste de recevoir son passeport britannique. Sa cérémonie de naturalisation a eu lieu au printemps. Elle se prépare à voter pour la première fois en tant que citoyenne du Royaume-Uni.
Je savais que les élections allaient arriver, donc j'étais surprise qu'elles viennent en juillet plutôt qu'en automne, puisque c'était plus ou moins ce qui était prévu. Mais au final, je les accueille parce que le plus tôt on pourra voter, le mieux ce sera pour que les choses commencent à changer. Bien sûr que j'espère que les choses s'arrangeront, que les listes d'attente de la NHS diminueront, que le recrutement des profs dans les écoles s'améliorera. En même temps, je me dis que peut-être que ça ne va pas s'améliorer. Alors, tout ce que j'espère, c'est que ça ne va pas s'empirer. Mais je ne suis pas extrêmement positive. Franchement, je me méfie d'un peu tout le monde maintenant.
Mathilde votera travailliste le 4 juillet. C'est le parti qui lui correspond le mieux, dit-elle. Même si cette formation n'entend pas revenir dans l'Union européenne, la gauche souhaite avoir de meilleures relations avec ses voisins européens.
Reportage de Marie Billon, l'une de nos correspondantes à Londres, à réécouter ce soir dans l'émission Accent d'Europe. Rendez-vous à 19h10, temps universel.
RFI Midi, Anne Contner.
Comme chaque jour, notre coup d'œil à la presse du continent européen, à la une du journal allemand Die Zeit, la situation politique en France. Après l'annonce formelle de désistement dans plus de 200 circonscriptions avant le second tour des législatives dimanche. D'abord ennemi, maintenant ami, titre Die Zeit. Les choses se tendent en France. Pour éviter une majorité d'extrême droite, les candidats concluent des alliances inhabituelles, estime le quotidien, mais Marine Le Pen cherche aussi des alliés. Le soir, en Belgique, se demande si Emmanuel Macron peut refuser de nommer Jordan Bardella, leader du Rassemblement national, au poste de Premier ministre dimanche soir. Si l'on se penche sur la Constitution, écrit le journal, il n'est mentionné nulle part que le président doit suivre la majorité parlementaire. Et puis The Times revient sur la polémique qui secoue le parti au pouvoir en Italie. Après des jours de réactions indignées dans l'opposition et dans la presse, la Première ministre s'exprime enfin. Giorgia Meloni se dit en colère et attristée après la publication de vidéos dans lesquelles de jeunes militants apparaissent en train de faire des saluts fascistes ou de prononcer des insultes antisémites. La chef du gouvernement menace d'évincer ces jeunes du parti Fratelli d'Italia.
RFI, l'Europe à midi.
Cela fait un an et demi que la première ministre d'extrême droite est en poste en Italie, à la tête d'un gouvernement qui compte aussi des ministres venus de la droite traditionnelle. Et Giorgia Meloni suit de près la situation en France. Entre les deux tours des législatives anticipées, marquées par un succès totalement inédit de l'extrême droite, elle rappelle avoir toujours souhaité la fin en Europe des barrières entre ce qu'elle appelle les forces alternatives à la gauche. Et selon elle, la France va aussi dans cette direction. Avec quelles conséquences ? Comment les Italiens vivent-ils la situation ? Élément de réponse avec notre correspondante à Rome, Anne Lenir.
Ici à Rome, la population semble très divisée. Lucia, 63 ans, se sent abandonnée par le gouvernement Meloni.
Rien n'a changé. On paye trop d'impôts, les prix alimentaires sont trop élevés. Comment les jeunes peuvent-ils fonder une famille ?
La crainte de Domenico, un buraliste quinquagénaire, c'est surtout la lepenisation de Giorgia Meloni en cas de victoire du Rassemblement National le 7 juillet.
Une lepenisation de Meloni, c'est assez angoissant parce qu'elle pourrait trop déplacer vers la droite l'axe des conservateurs.
Mais selon Aldo, 30 ans, informaticien, le vrai problème, c'est la distance entre les citoyens et la classe politique.
Il y a un manque de confiance générale. Je définirais cette période comme celle de la mort de l'esprit critique.
Pour sa part, Milena, artisane, a repris confiance avec Meloni au pouvoir.
Nous avons une femme à la tête du gouvernement qui a su réaliser ses projets. C'est une personne exemplaire.
Selon les derniers sondages, 43,3% des Italiens font confiance à la première ministre et leader du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia. Anne Lenir, Rome, RFI.
À Rome, il est 13h46. On vous emmène maintenant dans le nord de la Grèce, à Alexandroupolis, une ville qui rêve de devenir la capitale énergétique des Balkans. Il faut dire qu'elle se trouve au carrefour de routes gazières de plus en plus utilisées depuis le début de la guerre en Ukraine il y a 2 ans. La Grèce mise notamment beaucoup sur les échanges avec la Bulgarie voisine, ultra dépendante du gaz russe, jusqu'à l'ouverture en 2022 d'un gazoduc. Et puis la Grèce se tourne aussi maintenant vers les pays européens avec d'autres projets, Joël Brunner.
Alexandroupolis est une ville portuaire du nord de la Grèce, proche de la frontière turque. Une ville du sud-est de la Méditerranée, dont l'importance régionale paraît en plein essor. Constantinos Tsatsikonstantinou est à la tête de l'autorité portuaire.
Je suis né à Alexandroupolis et toute ma vie, j'ai travaillé dans la région. Je peux vous dire que j'ai vu cette ville considérablement se développer. À l'époque où j'étais un enfant, adolescent, il y avait moins de 20 000 habitants ici. Aujourd'hui, il y en a près de 80 000. À l'heure où je vous parle, en raison de la guerre en Ukraine, la position géographique d'Alexandroupolis est devenue encore plus stratégique. Résultat, progressivement, la ville commence à prendre une dimension de carrefour commercial à l'échelle européenne.
L'accélération du développement local depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie se traduit par l'intensification sur place des activités militaires logistiques de l'OTAN et de la mise en place des infrastructures indispensables au commerce du gaz. De ce point de vue, Alexandroupolis est en train de devenir une porte d'entrée pour le gaz naturel liquéfié, le GNL, notamment américain, en Europe. Un premier terminal méthanier flottant y est sur le point de démarrer ses activités commerciales.
Le principe, c'est que le gaz arrive sous forme liquide à bord de gros navires qui jettent l'ancre à proximité du terminal méthanier flottant. Ce terminal se situe au milieu de la mer, à 5,5 milles nautiques de la côte. Une fois le navire sur place, le gaz est pompé par le terminal et il est ensuite dirigé vers le continent à l'aide d'un gazoduc sous-marin. Ce ne sont pas les autorités portuaires, mais une autre entreprise qui s'appelle Gastrad, dont les actionnaires sont notamment grecs et bulgares, qui contrôle ce terminal et qui s'occupe du commerce du gaz.
Gastrade et son projet de terminal méthanier flottant sont notamment une illustration de la coopération transfrontalière entre Grèce et Bulgarie. Kostis Sifneos en est le directeur général.
Dès l'origine de la conception du projet, le gouvernement bulgare, l'État bulgare, a montré un grand intérêt à y prendre part. À ce moment-là, la Bulgarie dépendait quasi exclusivement du gaz russe et n'avait évidemment aucun accès au gaz naturel liquéfié. À ses yeux, ce projet représente donc depuis le départ une infrastructure stratégique clé pour assurer sa sécurité énergétique. Voilà pourquoi l'État bulgare a acheté 20% des parts de l'entreprise elle-même. En parallèle, la propre entreprise étatique bulgare de distribution de gaz naturel a réservé de son côté 1 million de mètres cubes de capacité gazière pour une période de 10 ans.
Une coopération qui, sur cette question du gaz, a déjà concrètement démarré entre les deux voisins dès 2022, même si, comme le souligne Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, les choses ont pris du temps.
Cela fait plus de 10 ans que les discussions autour de ce projet d'interconnecteur gazier entre la Grèce et la Bulgarie ont démarré. Dès le départ, l'Union européenne a soutenu ce projet tant sur le plan politique que sur le plan financier, en déboursant 250 millions d'euros. Par le passé, 80% du gaz de Bulgarie provenait de Russie. C'était avant que la Russie ne décide de lancer une guerre atroce contre l'Ukraine et une guerre énergétique contre l'Europe. Ce gazoduc change la donne, c'est une nouvelle donne à la fois pour la Bulgarie et pour la sécurité énergétique européenne.
L'interconnecteur Grèce-Bulgarie est aujourd'hui un jalon sur la route d'une coopération gazière accrue entre la Grèce, l'Europe du Sud-Est et l'Europe centrale. Cette route plus large se matérialise par une initiative en cours d'élaboration qui a pour nom le corridor vertical.
Concrètement, le corridor vertical est un couloir d'acheminement du gaz qui va du sud vers le nord, à destination à la fois de l'Europe du Sud-Est et de l'Europe centrale. Le point de départ du corridor vertical se situe donc en Grèce. De là, le gaz prend la route de la Bulgarie avant d'aller plus au nord vers la Roumanie. C'est à partir de la Roumanie que le corridor se sépare en deux routes. Une première route qui prend la direction du nord-est vers la Moldavie et l'Ukraine, qui sont les membres les plus récents de ce projet, et une autre route qui part à l'ouest vers la Hongrie puis la Slovaquie. Tout cela mis bout à bout, nous parlons d'un marché dont la demande en gaz est à peu près comparable à celle de l'Allemagne, donc un assez gros marché.
Le conflit ukrainien a permis d'accélérer la mise en place d'une politique de coopération entre la Grèce et ses voisins en vue du commerce de gaz. Une collaboration dont Alexandroupolis et sa région sont le symbole, et dont Athènes aussi devrait tirer les bénéfices. Porte d'entrée alternative au niveau de l'énergie, la Grèce se forge en effet ainsi une image de pôle de stabilité régionale.
Reportage dans le nord de la Grèce de notre correspondant Joël Brunner. Reportage Accent d'Europe à retrouver sur la page de l'émission et sur notre application RFI Pure Radio.
RFI, l'Europe à midi.
On va parler football à présent et de l'Euro édition 2024. Ça se passe en Allemagne, vous le savez. Les 8 équipes engagées pour les quarts de finale sont désormais connues. Les 8e de finale de l'Euro se sont terminées hier soir sur la qualification de la Turquie. C'est la dernière nation à rejoindre le tour suivant. Et on va revenir avec notre envoyé spécial Antoine Grenier sur les images fortes de ces 8e.
Un but, des larmes et une bicyclette. Au rayon des souvenirs, ces 8e de finale de l'Euro laisseront le 2e but le plus rapide de l'histoire de la compétition, celui de Mehri Demiral pour la Turquie à la 58e seconde du match contre l'Autriche. Ce but-là permet aux Turcs d'atteindre les quarts de finale de l'Euro. Les larmes, celles de Cristiano Ronaldo, 39 ans, plus de 200 sélections, et toujours l'émotion qui affleure sous le maillot de son équipe nationale. Après son pénalty raté face à la Slovénie pendant la prolongation, CR7 s'effondre en pleurs, consolé par ses coéquipier. Des larmes séchées quelques minutes plus tard après une séance de tirs au but remportée par les Portugais. Un Ronaldo réconforté, un Bellingham triomphant, bras écartés face aux tribunes. Le numéro 10 anglais portant à lui seul les espoirs des Sri Lions. Bellingham auteur d'un retourné acrobatique à la dernière seconde du temps additionnel du match face aux Slovaques, offrant à l'Angleterre une prolongation qui lui permettra d'aller chercher la qualification pour l'écart. Un stade de la compétition que ne verra pas l'Italie. Autre moment fort, l'abattement italien au coup de sifflet final du match contre la Suisse et symbolisé par Gianluigi Donnarumma, le gardien italien, héros du sacre de l'Euro 2020, impuissant à stopper la déroute italienne 3 ans plus tard. Antoine Grenier, Hambourg, RFI.
À Hambourg comme à Paris, il est 13h54.
RFI midi. Un monde de tech.
On va reparler des élections législatives en France dans notre monde de tech aujourd'hui. Bonjour Dominique Dezonnet.
Bonjour Anne.
L'heure est à la remobilisation sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'influenceurs de créateurs de contenu, comme on dit, prennent la parole pour appeler leurs followers à voter dimanche, le 7 juillet, second tour des législatives. Et deux camps s'affrontent désormais en ligne. Ceux qui appellent à faire barrage à l'extrême droite et puis les partisans du Rassemblement national qui demandent, eux, une très large victoire pour le RN.
Oui, alors beaucoup d'entre eux, quand même, ne donnent pas vraiment de consignes de vote, comme par exemple l'instagrammeuse Léna Situation, qui rappelle simplement la date des prochaines élections en publiant un calendrier dans sa story accompagné du message « Notez bien ça dans vos agendas, on retourne voter le deuxième tour le 7 juillet », en ajoutant toutefois que c'était extrêmement important. En revanche, la vidéaste Sally, sidérée par les résultats du premier tour, estime que voter pour faire barrage à l'extrême droite est une question de survie. Sa phrase est devenue rapidement virale et reprise par d'autres personnalités des réseaux sociaux telles que Chloé Gervais ou encore Horty _. Certains influenceurs adoptent toutefois un ton plus vindicatif et vous êtes des cas désespérés, assène ainsi le TikToker Martin Le Gilet dans une vidéo dans laquelle il s'adresse directement aux électeurs du Rassemblement National.
Je vais vous choquer un peu parce qu'un petit électrochoc, ce serait pas de refus là. Si vous votez Rassemblement National, vous faites pitié, vous connaissez même pas le programme du RN, même eux le connaissent pas. Si tous les autres partis, à l'exception du vote, sont capables de se réunir pour vous faire barrage, c'est vous le problème, pas nous. On vous voit pas dans la rue, vous cachez dans les urnes, ayez honte, honte. Pour finir, les multimilliardaires utilisent votre bêtise à des fins personnelles pour s'enrichir encore plus. Bien joué, vous avez rien compris.
De leur côté, ceux qui soutiennent le Rassemblement National se moquent de leurs rivaux de gauche qui ont appelé à faire barrage.
Effectivement, ils se réjouissent de cette première victoire du RN. Beaucoup d'influenceurs doivent avoir une sacrée gueule de bois. Affiche tout sourire, par exemple, le youtubeur psychodélique, le tiktoker Lebrac, qui a publié pas moins de 6 vidéos depuis l'annonce des résultats du premier tour des élections législatives, lui non plus, ne cache pas sa joie.
Les gars, démocratiquement, on les éteint. Avec leurs règles du jeu, on les éteint. Avec leurs médias, on les éteint. Avec leurs influenceurs, on les éteint. Avec leur propagande.
Les influenceurs d'extrême droite ne sont pour autant pas aussi euphoriques, Dominique.
Oui, les 33% du Rassemblement National ne suffiront peut-être pas, prévient dans une vidéo sur YouTube le vidéaste antisémite et suprémaciste blanc Daniel Concersano, qui appelle en ligne les internautes sympathisants du RN à rester mobilisés. Sur les réseaux sociaux, tous les influenceurs de chaque camp fourbissent désormais leurs armes numériques, évidemment, tous bien décidés à poursuivre leurs efforts d'influence jusqu'au second tour des législatives françaises.
Qui se tiendra donc dimanche. Merci Dominique Dezonnet. 13h57 ici à Paris. RFI Midi se poursuit. Nous sommes ensemble pour 1h30 encore avec le journal dans quelques minutes. Et puis à 12h30, temps universel, vous le savez, Afrique Midi. Bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour Anne Campner.
Vous nous parlerez tout à l'heure.
Du Tchad, 2 semaines après l'explosion d'un dépôt de munitions de N'Djamena dont le souffle avait projeté des engins explosifs aux quatre coins de la ville. Les opérations de déminage touchent à leur fin. Selon le génie militaire, 95% de la ville est à présent dépolluée. Et puis une nouvelle attaque meurtrière a eu lieu dans le centre du Mali. Elle est attribuée à la Katiba Massima du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Au moins 21 villageois de Djigui Bombo dans la région de Bandiagara ont été tués.
À tout à l'heure, Nicolas Sûr. Bazo Banga, pour nous accompagner jusqu'au journal de midi, temps universel, voici Cococo.
RFI Midi. Avignon devient capitale mondiale du théâtre à partir du 29 juin. La nouvelle édition du Festival d'Avignon nous invite à chercher les mots ensemble pour dire et habiter ce monde avec 37 spectacles et expositions. Plus de 300 rendez-vous à destination de tous les publics avec cette année l'espagnol comme langue invitée et le chorégraphe Boris Charmatz comme artiste complice. En partenariat avec France Média Monde.